Europe 1. Europe 1, Christophe Ondelatte.
Stéphane Alix est un journaliste. Au début, il a eu une carrière rationnelle, très rationnelle, qui d'ailleurs, à bien y réfléchir, avait déjà à voir avec la mort, puisque de ses 19 ans à ses 34 ans, il est reporter de guerre, essentiellement en Afghanistan. Et les jeunes reporters de guerre sont souvent des trompe-la-mort. Et puis en 2001, un événement bouleverse sa vie. Son frère Thomas meurt sous ses yeux dans un accident de voiture, en Afghanistan. Et à partir de ce moment-là, la mort devient son sujet. Ce qui se passe avant, pendant et surtout après la mort. Et Stéphane Alix arrive à la conclusion qu'il y a une vie après la mort, qu'on peut parler avec les morts. Comme les bouddhistes qu'il a beaucoup fréquentés, il croit à la réincarnation. Par honnêteté, je vous le dis, moi je n'y crois pas. Mais sans le juger, je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Au début de l'année 2014, Stéphane est en surchauffe. Ses bouquins, sa promo, son institut de recherche sur les expériences extraordinaires, ses émissions pour M6, il est au bord du burn-out. Et il décide de faire un break. Et comme ça fait longtemps qu'il s'intéresse aux chamans, aux sorciers d'Amazonie, il choisit de se retirer dans un centre chamanique au Pérou, au fin fond de la forêt amazonienne, dans une cabane en bois. Seul, pendant 2 semaines. Il se fait juste porter à manger, il n'a sur lui ni téléphone, ni ordinateur. Lui, face à lui. Et un après-midi, il se lance comme souvent dans une séance de méditation. Il s'allonge sur son lit, il ferme les yeux. Et au milieu de la forêt, il laisse son imagination vagabonder. Il est un aigle en train de survoler la cime des arbres en suivant le cours d'une rivière. Et soudain, au bord de la rivière, dans son rêve éveillé, il voit des silhouettes noires, des gens qui marchent. Alors toujours en rêve, il plonge vers la rivière. Et voilà ce qu'il écrit. La rivière disparaît et laisse place à un paysage uniformément blanc, comme recouvert de neige. Je suis à leur niveau maintenant, au sol, et je vois un char. Et derrière, des hommes qui avancent protégés, des soldats allemands. C'est la guerre. Stéphane a l'impression d'être avec eux, d'être un soldat allemand lui aussi. Mais il y a mieux que ça. Il se voit en SS.
Je sens une espèce de proximité très forte avec l'un de ces hommes que je vois prendre un éclat d'obus instantanément dans la gorge, s'écrouler au sol. Et voilà, je sais qu'il s'appelle Alexander, je sais qu'il est Obersturmführer. Je ne parle pas un mot d'allemand, mais ce grade me vient immédiatement à l'esprit. Très rapidement, son nom de famille me vient aussi, Hermann. Je vois un tatouage avec 25 qui s'avère être son âge. Puis je vois cette scène de la mort se répéter.
Il voit aussi le visage de ce SS. Châtain, presque blond, les cheveux ras sur les tempes et sur la nuque, mais plus longs sur le dessus. Cet Alexander Hermann est grand, mince, musclé. Il porte un long manteau noir. C'est le prototype du soldat nazi. Et ce rêve éveillé dure comme ça une demi-heure. Mais il continue à hanter Stéphane pendant tout son séjour dans la forêt. Et si cette scène n'était pas seulement un rêve? Et si elle avait vraiment eu lieu pendant la guerre? Stéphane rentre à Paris, et quand il arrive chez lui, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir Internet et de taper sur Google « Alexander Hermann, SS ». Et là, il tombe sur des listes et des listes d'officiers nazis, sur des sites polonais. Et il trouve 2 Alexander Hermann, qui ont tous les deux été SS, et dont un était Obersturmführer. le soldat SS de son rêve a donc bien existé. Et c'est très troublant. C'est très troublant. Et au début, pour être honnête, ça l'effraie. Spontanément, il n'a pas envie d'aller plus loin. Alors pendant des semaines, il essaie d'oublier ce rêve éveillé. Il retourne à ses activités, à ses bouquins, à ses recherches, à ses émissions de télévision. Mais c'est une question, pour le coup, très rationnelle, qui le ramène à Alexander Hermann. Comment est-ce qu'on devient SS? Pourquoi est-ce qu'on devient SS? Pourquoi est-ce qu'on devient le mal?
Comment est-ce que quelqu'un d'a priori normal, né en Allemagne, dans un pays civilisé, ayant produit Goethe et un certain nombre d'autres personnes éminentes, comment est-ce que ce pays peut plonger dans une horreur absolue? Et comment des gens qui pourraient être nos voisins, nos amis, des gens tout à fait fréquentables, en viennent à commettre des atrocités pareilles?
Alors en mars 2015, un an après son rêve éveillé, Stefan Alix retourne sur Internet. Il retrouve les listings et il ouvre la boîte de Pandore, bien décidé à aller jusqu'au bout. Toujours sur Internet, Stefan repère le nom d'un historien spécialiste des SS, Charles Trang, qui a l'air de posséder beaucoup d'archives. Alors il l'appelle, il lui raconte tout, son rêve et ce SS, cet Alexander Hermann, qui lui est apparu en songe. L'historien est évidemment un peu surpris, mais il accepte de jouer le jeu. Et il se met à pianoter sur son ordinateur.
Ah, effectivement, hein. J'ai un officier SS du nom d'Alexander Hermann. Écoutez, laissez-moi un peu de temps. Je regarde ce que j'ai sur lui et puis je vous rappelle.
Et il rappelle Stefan quelques heures plus tard.
Alors, votre Alexander Hermann, là, ben c'était bien un Obersturmführer, hein. Dans l'armée allemande, disons que c'est l'équivalent en France de lieutenant. Il portait le numéro SS 122-211. Il est né le 21 août 1916 et décédé le 20 octobre 1941 en Russie, à Souraïa Niva. Je regarde sur la carte, c'est à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors, il faisait partie des bataillons chargés de prendre Saint-Pétersbourg. C'est ce qu'on a appelé l'opération Barbarossa. Donc, il est mort, il avait bien 25 ans. 4 mois seulement après le début de la campagne.
Et vous pensez qu'il y a une trace de lui dans les archives?
Ah oui, oui, c'est possible, hein. D'autant qu'il était officier.
Et c'est facile d'accès, ça?
Oui. Certaines archives sont publiques, elles sont à Berlin, mais il y a des copies aux États-Unis près de Washington. Et je connais un jeune homme qui fait sa thèse là-bas. Si vous voulez, on peut lui demander de chercher.
L'historien lui donne le mail de ce thésard français et Stéphane lui écrit tout de suite. Et l'autre lui répond le soir même. « Cher monsieur, le dossier d'Alexander Hermann est disponible sur microfilm. Il semble assez complet, 87 pages. Je vous l'envoie dès que je l'aurai numérisé. » Formidable! Le dossier complet de l'Obersturmführer Hermann arrive sur la boîte mail de Stéphane le 23 mars 2017 en début d'après-midi. Il l'ouvre tout de suite, bien sûr. Et c'est bien son dossier militaire qui comprend des pages entières qui semblent avoir été écrites par Hermann lui-même, avec une écriture patte de mouche. Le problème, c'est que tout évidemment est en allemand et tout en lettres gothiques. Et Stéphane est donc incapable de déchiffrer ces textes. Alors il envoie le tout à l'historien Charles Trang, et assez vite, il a un premier retour par mail. « Ça va vous intéresser. Je vois sur le document 3 qu'Alexander Hermann appartenait aux fameuses divisions Totenkopf, qui veut dire « tête de mort ». Ça n'était pas un tendre. » Et là, du coup, Stéphane apprend comment son Hermann a été tué. C'est écrit sur son acte de décès qui est dans le dossier. Alexander Hermann a été touché par des éclats d'obus à la poitrine et dans le cou. Et souvenez-vous, c'est très exactement la scène que Stéphane dit avoir vue en rêve au Pérou. Petit flashback.
Je sens une espèce de proximité très forte avec l'un de ces hommes que je vois prendre un éclat d'obus instantanément dans la gorge.
Stéphane aurait donc vu dans son rêve une scène qui s'est réellement passée 74 ans plus tôt. C'est très troublant.
C'est vraiment cet acte de décès qui, pour moi, a constitué un espèce de moment fracassant dans mon enquête, parce qu'il stipule qu'Alexander Herrmann est mort d'un éclat d'obus à la gorge.
Et donc, à ce moment-là, les questions se bousculent dans sa tête. Qu'est-ce qui relie ce rêve qu'il a fait à ce personnage du réel? Et là, il voit deux hypothèses. Je vous rappelle qu'il croit à tout un tas de trucs auxquels des tas de gens, dont moi, ne croient pas. Première hypothèse. Au cours de sa méditation, il a capté un fantôme qui passait par là. Bon. Deuxième hypothèse, assez vertigineuse. Au cours de sa méditation, il lui est revenu en mémoire sa vie d'avant. Ce qui voudrait dire qu'il a été Alexander Herrmann il y a 74 ans. Je vous entends vous marrer. Et je suis comme beaucoup d'entre vous. Je ne crois ni aux fantômes, ni à la réincarnation. Mais qu'est-ce que vous avez comme autre piste à proposer, hein? Pour expliquer que 74 ans plus tard, Stéphane ait vu, en rêve, une scène qui s'est réellement passée en 1941. Allez-y, je vous écoute. Alors suivons-le dans sa logique, au moins par curiosité. Stéphane Alix et Charles Trang continuent de passer au crible tous les documents du dossier. Il y a tout son dossier militaire. Et là, il faut s'accrocher. Hein. Parce que ce Herrmann n'était vraiment pas un tendre. C'était un nazi pur et dur. Et si c'est sa vie d'avant, eh bien, elle ne sera pas facile à assumer. Première chose, Herrmann n'a pas été enrôlé de force dans la SS. Il a commencé par rejoindre les jeunesses hitlériennes à 15 ans. Et à 16 ans et demi, il s'est engagé. Et il était tellement doué qu'on l'a envoyé à l'école des officiers SS. Et vous savez où il a fait son stage de fin d'études ? À Dachau, le camp de concentration où sont morts d'abord des prisonniers politiques et dans la foulée, des juifs, des handicapés, des malades mentaux, des homosexuels. Herrmann a participé à tout ça. Et ensuite, il a fait la guerre en France, puis en Union soviétique où il s'est fait tuer. Dans son dossier, il y a aussi la trace de son mariage, car Herrmann s'est marié au tout début de la guerre, en mai 1940, avec une certaine Louise. Et ça, Charles Trang trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Eh oui, au sein de la SS, vous devez savoir que tous les mariages devaient être approuvés par le Bureau pour la race et le peuplement. Et donc il y a certainement eu une enquête approfondie, pour vérifier la pureté raciale des deux époux. Et il doit y avoir des archives hein, de tout ça, en Allemagne et aux États-Unis, à Washington. Vous pouvez y avoir accès sans problème.
Stéphane reprend alors contact avec le jeune thésard français qui vit sur place. Et quelques jours plus tard, l'autre lui envoie une copie numérisée du dossier familial d'Alexander Herrmann. Et dans ce dossier, il y a un petit trésor. Il y a sa photo. La photo d'Alexander Herrmann. Et elle colle parfaitement à l'homme que Stéphane a vu dans son rêve. Une sorte de mannequin nazi. Blond, les cheveux plaqués en arrière, l'arrêt à gauche, le front dégagé, le nez court, la mâchoire solide, les yeux bleus, 1m78 pour 75 kilos. Un arien. L'arien type. Et il y a aussi une photo de sa femme, Louise. L'air timide, apparemment, ils n'ont pas eu d'enfant. En revanche, et ça c'est bien intéressant, Alexander Herrmann avait un frère, Alfred. 5 ans de plus que lui, étudiant en médecine. Ah, il n'a pas servi dans la SS, mais dans la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. Et là, Stéphane Alix se dit, il faut que j'essaye de retrouver des gens de sa famille, en Allemagne, ce frère. Et peut-être encore vivant. Et là, il se met à écrire à tous les Hermann de Plauen, en Allemagne, la ville d'où venait Alexander. Aucun retour, aucune réponse. Ce qui est à moitié étonnant, hein. On se vante rarement d'avoir eu un officier SS dans sa famille. Donc, il y va. Il prend la route de Plauen en voiture. Depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression de vivre entre deux temps, l'époque actuelle et les années 30-40. Une étrange sensation me saisit lorsque je quitte la Belgique pour l'Allemagne. Je suis joyeux de me trouver sur cette terre. J'attends énormément des jours à venir. Plauen, la ville des Hermann, se trouve pas loin de la frontière tchèque. Quand l'Allemagne a été coupée en deux après 45, Plauen s'est retrouvée en RDA, côté communiste. Et quand Stéphane arrive au centre-ville, c'est étrange. Il a l'impression d'une familiarité, comme s'il connaissait déjà. Pour l'aider dans ses recherches, il a contacté un traducteur, André, qui par chance est marié à une spécialiste de généalogie, Andrea. Il commence par aller les voir.
« Vous dites avoir une liste de Hermann domiciliés à Plauen ?»«
Oui, la voilà. »«
Je vais essayer de les appeler. »« On cherche donc un descendant de qui ?»«
Eh bien, a priori du frère. »« Du frère d'Alexander Hermann, Alfred. »«
Bien !»
Mais ils font chou blanc. Aucun des Hermann de la liste n'est lié à la famille du SS Alexander Hermann. Aucun. En revanche, en fouillant dans les documents apportés par Stéphane, Andrea, la généalogiste, fait une trouvaille. Avant la guerre, les parents d'Alexander Hermann ont vécu à une autre adresse que celle qu'avait identifiée Stéphane. C'est là que le petit Alexander a passé son enfance et son adolescence, juste avant de s'engager dans la SS. C'est une nouvelle piste. Stéphane Alix se précipite à cette nouvelle adresse, 47 Neuendorfer Straße. C'est un immeuble abandonné de 5 étages, totalement décati. Il fait le tour du pâté de maison et il se glisse dans le jardin, derrière l'immeuble, envahi par les herbes folles. Et une fois de plus, l'endroit lui semble familier. Il a l'impression d'avoir joué dans ce jardin toute son enfance. Toujours cette idée qu'il pourrait être la réincarnation d'Alexander Hermann. Stéphane reste là un bon moment, comme hypnotisé, et puis il finit par regagner son hôtel. Le lendemain, Stéphane prend la route de Dachau, près de Munich. C'est l'un des premiers camps de concentration nazis. C'est là que Hermann est censé avoir fait son stage de fin d'études. Soudain devant moi, l'enceinte, les miradors, reconnaissables entre tous. C'est un choc. Je ne m'attendais pas à découvrir l'endroit si brutalement. Je me sens lourd, oppressé. Le voilà donc à Dachau, avec ce portail à l'entrée, surmonté du slogan « Arbeit mein frei », le travail rend libre. Et là, Stéphane se pose au milieu du camp et il est assailli d'images, c'est ce qu'il dit. Il voit des exécutions, des tortures, des prisonniers affamés. Et comme il envisage d'être la réincarnation d'un type qui a fait ça, eh bien c'est lourd à porter. Et il éclate en sanglots et il se met à parler à voix basse à Alexander Hermann.
Tout ça t'appartenait. Tout ça, ça n'est pas moi. Cet héritage, guérissant. Et si je peux, je t'aiderai. Je vous le redis. Vous le suivez ou vous ne le suivez pas dans cette idée.
Mais Stéphane Alix se vit comme la réincarnation d'Alexander Hermann. Et donc la continuation de sa vie monstrueuse. Car oui, c'est un personnage très difficile à porter. Alexander Hermann était au cœur de la machine nazie. Son dossier indique qu'après Dachau, il a été muté dans un autre camp. Le camp de Sachsenhausen, au nord de Berlin, où il a été nommé adjudant affecté aux tâches administratives du camp. Et ensuite, il est parti faire la guerre, et on le retrouve notamment, à partir de septembre 1939, à 150 km au nord-est de Varsovie, en Pologne, où sa division SS participe à ce qu'on a appelé des actions juives, c'est-à-dire des exécutions de masse de juifs. le 24 et le 25 septembre 1939, sa division exécute 800 civils, juifs, intellectuels et résistants. Et d'après ce que disent les livres sur cette époque, le chef d'Alexander Hermann, un certain Nostit, appliquait les ordres à la lettre. C'était un fanatique. Alors oui, pour Stefan Alix, c'est une parenté difficile à porter. Il rentre à Paris en voiture, presque d'une traite, avec comme un besoin urgent de rentrer à la maison. Un déclic s'est opéré dans la cour de Dachau. Une rupture, le début de la guérison, de la libération finale. Je porte la culpabilité de trop de morts, ceux de mes souvenirs et ceux de mes rêves. Trop de morts, trop de douleurs en moi. Et évidemment, il repense à ses morts, à lui, et surtout à son frère, mort sous ses yeux à Kaboul, en Afghanistan, en avril 2001. Ils étaient partis en reportage ensemble, ils roulaient dans deux voitures différentes, son frère devant et lui derrière. Son frère a été pris dans un accident. Il continue de porter cette culpabilité. Alors peut-il en plus supporter la culpabilité des crimes d'Alexander Hermann? Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et le voilà donc à Paris, mais pas pour longtemps. À peine arrivé, il se dit « il faut que j'aille en Russie ». Il faut que j'aille là où il est mort, sur le champ de bataille, près de Saint-Pétersbourg. Et il débarque donc à Saint-Pétersbourg à la mi-octobre 2015, c'est-à-dire pile 74 ans après la mort de Hermann sur le champ de bataille. Mais comment trouver précisément l'endroit où il est mort et l'endroit où il a été enterré ? Comme en Allemagne, il prend un interprète qui s'appelle Nicolas et il replonge dans le dossier militaire de Hermann et dans les livres qui racontent la campagne de l'armée allemande en Union soviétique. Et le voilà sur les lieux supposés de la dernière bataille de l'officier SS à Suraya Niva.
Quand j'ai arpenté les forêts de cette zone qui se trouve à l'est de ce qu'on appelait le chaudron de Demyansk, on voit encore les bunkers, on voit encore les zones où étaient camouflés les soldats. On se promène dans la forêt et on sent presque la dimension de cette guerre encore présente dans les bouleaux, dans les arbres et dans les villages russes.
Voilà ce qu'il sait grâce aux archives et aux livres. La dernière bataille d'Alexander Hermann a lieu le 20 octobre 1941. Ça fait un mois que les Allemands se battent dans ce coin. Il y a eu des bombardements toute la nuit précédente, et à 6h du matin, l'Obersturmführer Hermann et sa compagnie reçoivent l'ordre de partir à l'assaut du village de Suraya Niva. Ils sont appuyés par des chars légers. Ils longent un ruisseau en contrebas de la route qui mène au village. L'artillerie russe les pilonne. Plus que 500 mètres. Et là, Stefan Alix imagine la suite. Alexander Hermann a soif, sa tête bourdonne du vacarme assourdissant des armes. Derrière un canot d'assaut, lui et ses hommes parviennent en visuel de Suraya Niva. Ses bottes sont lourdes, il cherche sa respiration, il se décale pour observer à l'avant du blindé, alors il sent quelque chose heurter son cou, ses jambes se dérobent et il s'effondre. Et l'Obersturmführer de la Waffen-SS, Alexander Hermann, meurt à 25 ans. Sous le feu soviétique. Il est 10h10, 74 ans plus tard. Stefan Alix longe le même ruisseau, en contrebas de la même route. Et le décor ressemble très exactement au rêve qu'il a eu au Pérou. Et là, d'un coup, il dit qu'il est cloué sur place. À cette seconde, une vague puissante monte du sol et me fait vaciller. Je suis submergé par l'évidence, c'est ici, à cet endroit, qu'il est tombé, sous mes pieds. Alors maintenant, il veut retrouver sa tombe. Il sait qu'Alexander Hermann est enterré dans un village voisin, à Mirochny. La généalogiste allemande Andrea a réussi à en savoir un peu plus.
Écoute, Hermann et d'autres soldats ont été enterrés dans un cimetière de fortune au bout du village. Après la guerre, ce terrain a été vendu et d'après ce que je sais, une maison a été construite dessus. Eh bien, la tombe d'Alexander Hermann y est toujours, je pense. Mais à mon avis, sous la maison. Je pense qu'il n'a pas bougé de là. Hein.
La maison, justement. Eh bien, la voilà. C'est une bicoque défraîchie devant laquelle un chien monte la garde. Et une femme en sort.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Stéphane et son interprète lui expliquent. Et elle confirme.
C'est vrai, hein ? C'était un cimetière ici pendant la guerre. Mais il y a une dizaine d'années, les Allemands sont venus faire des fouilles. Sous le poulailler, là-bas, vous voulez voir ?
Bah oui, volontiers.
Rentrez. Vous voyez ? Bah les corps étaient là.
Au pied de la maison, Stéphane Alix remarque une trappe.
Et cette trappe-là, elle mène où ? Bah dans la cave. Vous m'autorisez à visiter votre cave ? Ben, si vous voulez.
Stéphane Alix descend par la trappe. Le plafond est très bas. Il avance plié en deux. À l'intérieur, il y a des provisions pour l'automne. Des choux, des pommes de terre, des citrouilles et des courges. Le sol est en terre battue. Stéphane se met à genoux. Et puis il s'allonge. Allongé dans l'ombre fraîche, sous le plancher d'une isba, je suis arrivé à destination, dans un caveau, couché sur la tombe d'Alexander Hermann, si près de ce corps qui fut le mien avant. Et avant de partir, il adresse une prière à tous ces morts qui sont autour de lui. Je pars. Ne venez pas avec moi. Il y a une lumière pour chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas me suivre. À vous de chercher cette lumière. Elle est là pour chacun de vous. À partir de ce moment-là, Stéphane Alix dit qu'il se sent plus léger. Il n'a pas obtenu la réponse à toutes ses questions, mais il se sent comme guéri, libéré de son obsession. Son récit se termine par cette citation de Romain Gary. Lorsque vous écrivez un livre mettant sur l'horreur de la guerre, vous ne dénoncez pas l'horreur, vous vous en débarrassez.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.